marciavamo con l'anima in spalla nelle tenebre lassù, ma la lotta per la nostra libertà in cammino ci illuminerà. Non sapevo qual è...
Il est midi sur Prune, l'heure de se réchauffer les mains autour d'un feu de joie. Siamo Tutex part à la rencontre des milieux solidaires qui font vivre à leur manière la lutte contre le fascisme. Nous sommes tous antifascistes. Un cri inclusif de rage et d'espoir. Le cri d'une foule puissante de personnes qui agissent chaque jour pour créer des liens et des solidarités. Et c'est à elles que nous tendons notre micro toute l'année. Pour se rappeler que nous ne sommes pas seuls et que la lutte flamboiera tant qu'il le faudra.
Bienvenue dans Siamo Tutex, l'émission tout exfoliante pour les idées des mascus. Parce que franchement, vos avis sur nos corps ou nos identités, c'est comme les peaux mortes, on s'en passe très bien. Moi c'est Héloïse et je suis super contente de retrouver une partie de l'équipe. Autour de la table, on a Enora qui déniche chaque mois des pépites pour ses chroniques. Salut Enora, de quoi est-ce que tu vas nous parler cette fois ?
Hello, pas de pépites ce mois-ci, je vais plutôt vous parler préservation de gisements de pépites. Je vous laisse sur cette phrase cryptique, on en reparle dans un petit quart d'heure.
Et à côté de toi, on a Céleste qui sera à la manœuvre pour une interview canon et sans concession avec nos deux invités. Salut Céleste.
Salut.
Et bien sûr, comme toujours, Léo à la technique. Il nous fait coucou depuis la régie. Et on pense bien fort à nos acolytes, Lilia et Louise, qui nous ont aidés à préparer l'émission. Bon. On va pas se mentir, l'ambiance a des airs de Black Mirror en ce moment. Et j'imagine chaque matin Umberto Eco nous dire « Je vous l'avais bien dit que ça glissait vers le fascisme, votre histoire. » Inspire, expire. Et arrête de scroller frénétiquement sur Insta, on te voit. C'est un peu dans un moment un peu similaire d'angoisse individuelle qu'on a créé Siamo Tutex. On a eu besoin de transformer notre paralysie vers un mouvement collectif et radiophonique. Alors pour l'épisode d'aujourd'hui, on ne va pas décrypter la montée en puissance du fascisme aux US, d'autres l'ont déjà très bien fait. Nous, on va faire ce qu'on fait toujours à ce micro, on va raviver le feu de joie et l'envie de lutter avec l'aide de nos invités. Je laisse Céleste nous guider dans ce nouvel épisode pour parler fascisme sans finir en boule sous notre couette.
Hello. Alors, est-ce que vous vous souvenez d'Umberto Eco, ce vieil italien antifa qui a théorisé 14 points à travers lesquels on peut reconnaître le fascisme ? Ce sont ces 14 points qui nous orientent quand on prépare nos émissions. On choisit un ou plusieurs points et on tend notre micro à des personnes qui luttent dans leur quotidien contre le glissement facho. Aujourd'hui, on va faire le lien entre cet homme né sous le régime de Mussolini en Italie et la danse sur talons hauts. Restez avec nous, vous allez voir, tout va faire sens. Un des points, comment reconnaître un facho quand on en voit un à la télé ? Que propose Umberto Eco, c'est une vie vouée à la lutte. Il écrit « Il n'y a pas de lutte pour la vie, mais plutôt une vie vouée à la lutte. La lutte est un combat permanent. » Fun. À ça, on a envie d'y opposer nos moments de partage et de joie qu'on cultive dans nos luttes. Dans un livre de poésie qu'un copain m'a offert cet été, les personnages disent vouloir déjà vivre dans le monde qu'elles veulent voir advenir, plutôt que de lutter contre les fachos et les mascus. Je paraphrase bien sûr. Lutter pour vivre et pas seulement survivre. Avoir un horizon désirable plutôt que lister tout ce qui ne va pas ici et maintenant. Et comme le disait Héloïse, c'est un peu le principe de l'émission. J'ai aussi envie de faire le lien avec un autre point d'Umberto Eco qui est la figure du héros. Un facho est un combattant qui veut se sacrifier à la lutte, qui veut faire exister son nom dans l'histoire comme le facho le plus facho des fachos. Et on en connaît certaines qui semblent jouer à ce jeu super amusant en ce moment. Le culte du sacrifice et la personnification des luttes, ce sont des dynamiques qu'on connaît aussi dans les milieux militants de gauche, des dynamiques dont on a du mal à se débarrasser. Alors face à cette injonction fasciste du sacrifice et la lutte pour la lutte, on a envie de vous proposer du collectif, de la joie et du partage. Alors loin de tomber dans le développement personnel qui nous explique sur Instagram que notre santé mentale est plus importante que la lutte contre un génocide en live sur nos téléphones, nous, on veut vous parler d'espace de lâcher prise, de toutes ces bases arrières qui nous rendent puissants et puissantes. Quand on fait la fête, quand on ressent la liberté dans nos corps, quand on expérimente des espaces de soins, de mixité choisie, eh ben on aime l'idée de dire qu'on lutte contre la fascisation de nos quotidiens.
Merci Céleste, on y voit déjà un peu plus clair et j'ai envie de reposer mon plaid pilou-pilou pour sortir me déhancher. Et pour discuter avec nous de ce sujet, on accueille Cyriane et Yasmina, qui ont créé ensemble La Récré. La Récré, c'est une association qui organise des événements inclusifs et festifs à Nantes. Des marchés de créateurs, des cours de danse en talons, et je crois savoir que vous avez encore plein de belles choses dans les tuyaux. On abordera avec vous vos diverses activités au cours de cette émission. Cyriane, tu te décris toi-même comme une pile électrique qui casse la fesse en cours de danse et jongle avec 1000 projets. Bienvenue Cyriane.
Bonjour.
Bonjour. Et Yasmina, tu te définis comme artiviste. Tu t'inscris dans une démarche de réappropriation culturelle en t'inspirant de tes racines et de ton héritage, en mêlant abstraction et symbole identitaire pour célébrer la double culture et questionner les narrations dominantes. Salut Yasmina, bienvenue.
Salut, merci.
Allez Céleste, à toi le micro.
Alors je vous préviens, j'ai été super inspirée par le thème de cet épisode. J'ai envie de vous parler de plein de choses. D'ailleurs, vous retrouverez toutes les références dans la page de l'émission sur Prune.net. On aimerait commencer l'interview en parlant de la fête comme objet politique. Et tout de suite, moi j'ai plein d'images en tête. Les scènes de fête qui ponctuent le film 120 battements par minute, qui retracent les luttes d'ACT UP dans les années 90. Les émeutes de Stonewall en 69, événements qui ont donné naissance aux premières Pride et qui naissent dans un bar queer. Un chapitre de Bâtir aussi, l'ouvrage collectif de l'Antémonde qui invente un monde post-capitaliste et où les personnages imaginent une grosse teuf. Et elles inventent une piste de danse qui capte les vibrations des danseuses pour les transformer en électricité. Bah oui, à quoi bon ça sert de se libérer du joug capitaliste et colonial si c'est pas pour danser libre ensemble ? La fête, c'est un espace-temps hors du monde normé. Halloween et autres carnavals qui nous permettent d'expérimenter des façons d'être, de s'habiller, de bouger, de relationner, qui nous permettent d'inventer des performances brouillant les frontières artificielles du genre. J'ai une question pour vous, Cyriane et Yasmina. Est-ce qu'à titre personnel, vous ressentez la fête comme un espace de lâcher prise, de respiration ou d'expérimentation ?
Mais carrément.
Oui, totalement, totalement.
En vrai, je pense que c'est ça, c'est ce vers quoi on tend. Enfin, c'est ce que tout le monde s'attend à faire quand tu dis tu vas sortir danser, faire la fête. C'est vraiment pour lâcher prise, pour tout lâcher, quoi. Enfin, je pense que t'es d'accord avec moi.
Si, j'ai complètement d'accord avec toi. Après, moi, je pense qu'il y a aussi des espaces qui sont plus ou moins dans le sens où il y a des espaces et des soirées et des événements qui nous parlent davantage parce que on sait que dans cet événement, il y a ce style de musique qui va nous aider davantage à lâcher prise et du coup qui va ramener aussi le même type de personnes qu'on a l'habitude de fréquenter et dont on partage les mêmes valeurs et les mêmes identités. Et je pense que c'est plus dans ces espaces-là qu'on va lâcher prise parce que faire la fête, oui, c'est lâcher prise parce que de toute façon, c'est fait pour. Mais je pense qu'on lâche mieux prise dans des espaces où on arrive à s'identifier et se réapproprier l'espace. Et voilà.
Complètement.
D'ailleurs, on a une suite de questions sur la mixité choisie et les espaces dans lesquels on choisit d'aller faire la fête. Et Céline, j'ai une question pour toi. Au-delà de participer à des fêtes, en fait, avec la récré, vous souhaitez en organiser aussi. Et qu'est-ce qui a motivé l'envie d'organiser des soirées ?
Bah, de toute façon, quand on a créé la récré avec Yasmina, l'idée, elle est venue du fait qu'on voulait avoir une association qui nous ressemble et où on peut faire des événements en fait, qui rassemblent toutes nos idées. C'est un peu une union de nous deux. Yasmina, qui est d'origine algérienne, moi d'origine congolaise, franco-algérienne et franco-congolaise. Et on avait envie de créer ces espaces aussi pour toutes les personnes qui sont comme nous, entre deux identités. Et je pense que ça passe aussi par la fête. On a commencé par des marchés de créateurisme, mais on a aussi envie d'avoir ces espaces où on pense à rien, mais où on est ensemble quand même à travers ces moments.
Et voilà.
Et voilà quoi, ça vient ça vient de ça, mais c'est aussi à travers la musique qu'on a envie de diffuser, on a envie de faire passer des messages à travers la musique qu'on diffuse. Yasmina, bon, je spoil un peu, désolée, mais elle se forme aussi pour être DJ et pour aussi, je te laisserai parler de ça, mais pour aussi transmettre des messages à travers les musiques qu'elle choisit. Et je pense que c'est ça aussi qui nous a motivés, c'est de créer des espaces qui rassemblent nos identités.
Carrément.
Et du coup, Yasmina, la prochaine question, je te l'adresse. Okay. Vous avez une super banderole pour vos événements, sur laquelle vous revendiquez la diversité et l'inclusion, notamment, dans tous ces événements festifs. En quoi organiser des soirées, pour vous, c'est un acte politique ?
Déjà, je pense qu'on prend cette liberté de prendre l'espace et de s'approprier des lieux, comme disait Cyriane aussi. Et de faire entrer des identités dans certains lieux qui, parfois, ça peut aussi... on ne s'attendrait pas à avoir ce genre de soirée ou ce genre d'événement dans tel ou tel lieu. Et pour moi, c'est déjà, en soi, c'est une revendication, même par... comme disait Cyriane aussi, je rebondis beaucoup sur ce qu'elle dit, mais par rapport aux styles musicaux qu'on peut passer, aux messages qu'il y a derrière, aux identités qu'il y aura sur place à la soirée. Enfin, je pense que tout ça, c'est des revendications. Et c'est des lieux de représentation, en fait, tout simplement. Donc, en soi, ça, c'est politique, quoi.
Et j'en profite, est-ce que vous avez un exemple avec une soirée que vous avez organisée dans laquelle c'était le cas?
Bah, on n'a pas encore organisé de soirée, nous, sous la récré, mais on a déjà collaboré avec d'autres collectifs. Et on a collaboré avec Sirène, notamment.
Et ça consistait en quoi, du coup, cette soirée?
Cette soirée, du coup, a été organisée par Sirène, du coup, en association avec Paloma, les Pétrolettes et...
La récré, assaut. Ballroom.
La ballroom cinantaise, la récré. Et il y a eu... Sirène a mis en avant quand même beaucoup de collectifs qui prônent aussi la diversité à Nantes, et qui sont militants aussi, et militantes.
En fait, le projet CRN, c'est... la soirée CRN, c'est organisée par Jimmy, mm-hmm. Qui a voulu réunir plusieurs collectifs qui œuvrent justement pour qu'il y ait ces espaces dédiés à telle ou telle personne, telle ou telle identité, et pour aussi connecter toutes ces associations pour qu'il en sorte des collaborations. Ouais. Donc là, c'était axé sur la catégorie CRN de la Ballroom Scene, qui est une catégorie qui a été créée pour les TDS. Et souvent, cette catégorie, il y a des personnes non TDS qui se la sont appropriées parce qu'ils s'identifiaient, elles s'identifiaient, pardon, à la sexiness de cette catégorie. Et le but, là, c'était justement de connecter la ballroom scene de Nantes et les TDS pour leur permettre, les travailleuses du sexe, pour leur permettre de connecter ensemble et peut-être faire germer une graine.
Ouais, faire des ponts entre chaque asso, chaque personne qui a fait quelque chose lors de cette soirée. Et en vrai, ça, c'est ce qui s'est passé.
Oui, il y a des connexions qui sont créées. Ouais. Et c'est ce genre de soirée, quand on parle d'événements politiques, oui, c'est clairement un événement politique, puisqu'il y a plusieurs associations qui viennent dans cet espace pour agir sur tel ou tel point. Il y a eu des interventions de la part de Paloma ou les Pétrolettes qui ont permis justement aux personnes qui n'étaient pas au courant d'apprendre de comprendre aussi ce que c'est le travail du sexe, de comprendre ce que c'est la ballroom scene. Il y a eu une représentation de certaines catégories. Donc oui, c'est politique. C'est sûr.
Et puis c'était en non-mixité, quoi. Ça aussi, je ne sais pas si on l'a précisé, mais c'était en non-mixité principalement et ensuite ouvert aux alliés. Mais de base, c'était ça aussi le but, c'était de faire une soirée pour que Yael se sente vraiment... c'est leur soirée, quoi. Mm-hmm. Et ça, c'était...
Jusqu'aux musiques.
Ouais, voilà. jusqu'au bout de la nuit.
Jusqu'au workshop qu'on a donné avec la récré, ouais. Qui était en non-mixité travailleuse du sexe.
Donc... Ouais, quand je vous entends parler de ces soirées-là qui sont hyper, hyper politiques, en fait, je me dis c'est exactement dans celles-là qu'on a envie d'aller tout le temps, en fait, pour se sentir bien. Mais bizarrement, et c'est le retour des air guillemets dans cette émission, c'est pas forcément la vision de la fête avec laquelle moi j'ai pu grandir en regardant les reportages des JT, sans parler des épisodes... choc d'enquête d'action sur les toughers. Je me demande, mais en fait, qui module notre imaginaire de la fête? Et Enora, est-ce que tu aurais des pistes là-dessus?
Oui, bien sûr, car c'est exactement là-dessus que j'ai travaillé pour ma chronique culture.
Waouh, mais quel hasard!
C'est vrai que sur M6, Europe 1 ou dans Le Parisien, c'est la fête. La fête, c'est en boîte, dans les bars, aux vieilles charrues, ou le 21 juin à la rigueur. Mais les fêtes dont on parle depuis le début de l'émission, nos fêtes à nous, nos safe spaces, ces espaces de soins, de rencontres et de lieux d'invention d'un futur souhaitable, qui en parle? Pas les médias dominants, ça c'est sûr. C'est l'amer constat que j'ai pu faire en préparant cette émission. La fête, lorsqu'elle se déroule en dehors des cadres capitalistes, quand elle ne sert pas l'économie, elle est marginalisée, voire criminalisée. Les journaux n'en parlent que pour nous dire qu'heureusement, les gendarmes sont arrivés assez vite sur le lieu de la free party pour constater plusieurs infractions liées à la consommation de drogue et d'alcool.
Waouh !
Attention !
Les seules sources qui m'ont été réellement utiles pour préparer cette émission et comprendre ce qui peut se jouer de politique derrière la fête, ce sont les médias indépendants. C'est donc de ces objets culturels en danger que je souhaite vous parler aujourd'hui. La presse indépendante, qui ne dépend donc ni des subventions, ni de la pub, et surtout pas d'actionnaires milliardaires pour vivre, est aujourd'hui la seule presse à même de nous informer sur les véritables enjeux de notre monde. L'extrême droite a tissé sa toile autour de nous ces dernières décennies, en faisant des médias traditionnels son cheval de Troie, dirigé par des milliardaires au service de son projet. Avec cette mainmise sur l'actualité, ces facilitateuristes du fascisme ont tout le loisir de nous imposer leur agenda et leurs obsessions, pour l'immigration par exemple. S'ils nous assomment avec leurs tweets en faveur de la liberté d'expression, c'est pourtant la liberté de la presse qu'ils matraquent, réduisant les droits et les protections des journalistes comme peau de chagrin. Et si vous vous sentez tétanisé, paralysé par les actus politiques en ce moment, n'oubliez pas que c'est fait exprès. L'extrême droite a tout intérêt à nous maintenir dans la sidération pour nous empêcher de nous mettre en mouvement. Mais la résistance s'organise, des gens se mobilisent tous les jours, et ça, il n'y a que la presse indé qui en parle. Les médias indépendants sont les seuls à témoigner de notre intimement politique, à parler de nos fêtes, à porter les voix des minorités et à nous proposer des alternatives à l'autoroute fasciste pavée par les médias dominants. Ils sont un de nos derniers remparts contre l'extrême droite et par conséquent, une de ses premières cibles. Il est urgent aujourd'hui de les soutenir. Partagez, abonnez-vous et donnez des sous. Le politiquement correct voudrait que j'ajoute « si vous le pouvez », mais on se cache souvent derrière pour ne pas donner, moi la première. Or aujourd'hui, il s'agit d'un enjeu vital. Donner à la Déferlante pour son numéro spécial sur la danse, l'émancipation en mouvement, à Fragile qui visibilise les soirées en non-mixité à Nantes, à Street Press, les seuls à parler de la gangrène fasciste dans les free parties, à Basta, La Relève et la Peste, Radio Parleur, Blast, Le Média, et bien d'autres encore, sans oublier Prune, évidemment.
Merci Nora d'avoir enfin mis fin au suspense qui me rongeait depuis le début de cette émission. Mais que voulait-elle dire en parlant de gisements de pépites? On ne fait pas une émission sur les ressources minières, est-elle au courant? Mais oui, apparemment tu l'étais. Avant de revenir à l'interview avec Yasmina et Cyriane, on vous propose de vous ambiancer en écoutant « Quitte aller » de Samoane, une recommandation de Cyriane. Vous êtes de retour sur Prune 92 FM dans Siamotoutex, l'émission où on explore l'antifascisme pour tous, tous les premiers samedis du mois, à l'heure du brunch. Mais cette semaine, c'est plutôt du côté des ambiances des apéros, des après-midi électro, des soirées endiablées, du twerk et des paillettes qu'on a envie de vous emmener. On en parle avec Yasmina et Cyriane du collectif La Récré. Céleste, à toi de jouer.
Alors on l'a vu dans la chronique d'Enora, nos fêtes et la façon dont on les raconte sont politiques. La danse et la musique qui mettent en mouvement ses fesses... Ses fesses.
aussi mais oui, complètement.
La danse et la musique qui mettent en mouvement ces fêtes sont ainsi des outils politiques. On pourrait y consacrer des heures. On pourrait parler de 1000 contextes et héritages. Il y a la dabke, une danse traditionnelle en Palestine et au Liban, qui s'est mue en danse révolutionnaire face à la colonisation des terres par l'État sioniste. Il y a la ballroom, née dans les années 80, qui lie fêtes, performances et soins dans les communautés noires, TDS et queer de New York. Il y a la chanson et la chorégraphie chilienne Un violador en tu camino, qui a fait le tour du monde pour dénoncer le système patriarcal. Il y a les Invertis, collectif TPG communiste qui, entre autres, transforme et prolonge les manifs en gros stuff. Et aussi, il y a le reggaeton, né dans les années 90 à Puerto Rico, territoire sous mainmise coloniale états-unienne. Musique décrite comme vulgaire, populaire, misogyne, qui a même été interdite par les autorités et qui est aujourd'hui un des genres les plus écoutés au monde, avec notamment en ce moment le dernier album de Bad Bunny qui dénonce cette injustice coloniale. Alors Cyriane, en quoi danser, et notamment danser des danses qui sont décriées ou dépréciées comme peut l'être la danse en talons, c'est un acte politique pour toi?
Bah parce que tout simplement c'est rompre avec les codes, moi j'adore ça. C'est rompre avec les codes sociétaux et c'est dépasser un peu les barrières que tout le monde nous met dans notre entourage. Moi quand j'ai commencé le Hills, ça fait pas longtemps, quand j'ai commencé à poster mes vidéos, j'ai eu des retours négatifs, je mets les formes, sur ma danse, parce que dans mon entourage, on était habitué à me voir danser de l'afro, un jogging, tout ça. Et le Hills, c'est plus une danse où on se réapproprie un peu sa sexiness, son rapport au corps, où on met les tenues les plus sexy, ou même pas forcément, mais on met les tenues qu'on n'ose pas forcément mettre à l'extérieur. Et le fait, moi, de les partager sur mes réseaux sociaux, c'était un acte politique pour dire... Je peux le dire ?
Ouais.
Je vous emmerde.
Et bam.
Et voilà. Donc ouais, pour moi, c'est un acte politique et c'est aussi à la fois libérateur de pouvoir danser comme on veut, avec la tenue qu'on veut, sur les réseaux, sur un compte ouvert où tout le monde peut voir. Et si t'es pas content, bah, tu viens pas regarder, c'est pas grave. Voilà, tout simplement.
Mais bon, tu viens quand même regarder.
Mais il y en a qui viennent quand même. Grave, c'est trop ça.
Et est-ce que quand tu danses ou quand tu apprends ou tu enseignes la danse, est-ce que tu as l'impression de t'inscrire dans un héritage ? Est-ce que tu as l'impression de pouvoir revendiquer des identités à travers ta danse ?
Bah déjà, l'identité femme, non, dans un premier temps.
Mm-hmm.
Parce que souvent, on associe le côté sexy à quelque chose de vulgaire. La vulgarité, c'est un spectre différent chez chaque personne. Et pour moi, ce n'est pas dérangeant de l'être. Des fois aussi, c'est une façon de revendiquer, qui on est. Et de provoquer et d'interroger les gens sur leur façon de penser le corps et surtout le corps de la femme qui est souvent limité à certains codes. Et on a souvent tendance à décrier le côté sexy comme quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu et qu'on ne devrait pas revendiquer. Et moi, je trouve que c'est une... Enfin, pour répondre à ta question, c'est oui. Je ne sais pas comment m'exprimer, mais...
Et tout à l'heure, tu disais que tu étais franco-congolaise.
Oui.
Et tu viens juste de dire justement que tu dansais beaucoup d'afro. Et est-ce que là, dans cette lignée-là, tu as l'impression de réinvestir des identités ou de,
Oui, ok. Alors oui, complètement. Mais de toute façon, je danse d'une dombolo depuis que je suis petite parce que je suis congolaise et que dans les fêtes de famille, de toute façon, on dansait depuis qu'on est tout petit. Et là, ce que j'aime avec les cours que je prends avec mon prof qui s'appelle Kirikou, big up, c'est qu'on apprend aussi le nom de tel pas, ce qu'il veut dire et pourquoi on le fait. Et ça, je pense que ça fait partie aussi de la réappropriation culturelle, c'est de comprendre pourquoi on fait ce pas-là, pourquoi on danse cette danse-là, et pas seulement de la reproduire et de la faire parce que ça n'a pas de sens. Donc complètement, oui, c'est... La danse est liée à l'identité, c'est aussi une façon d'apprendre à connaître sa culture. Parce que moi, j'ai grandi en France, j'y suis allée qu'une fois au Congo. Et ma famille n'est pas une famille de danseurs. C'est un cliché. Ma famille n'est pas une famille de danseurs. Il n'y a que mon père qui est fou de musique depuis qu'il est petit et qui dansait tout le temps et danse tout le temps, tous les jours. Et c'est forcément un lien à ma culture congolaise quand je danse. Et c'est comme ça que j'ai commencé à danser, donc oui.
Et si je peux ajouter, Elle le transmet très bien aussi quand elle donne nos stages à la récré. Tu le transmets mais grave bien parce que à chaque fois que tu, quand on fait l'afro, t'expliques les pas, d'où ils viennent. Enfin, tu le fais aussi très bien. Tu
vois, donc, mais merci Maury.
Voilà. Bah merci Maury.
Kirikou Maury. Voilà.
Et toi Yasmina, est-ce que ça t'inspire? Je te voyais hocher la tête. Mmh. Est-ce que tu...
Bah justement, c'est que je pensais justement quand elle nous donne ses cours et comment elle le transmet. Et c'est réel parce que de toute façon, la danse, ça vient de quelque part et ça vient de nos racines. Enfin, c'est complètement... c'est un moyen d'expression, en fait. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je sais que les esclaves en Amérique communiquaient beaucoup comme ça aussi. Enfin, ça vient aussi de lieux de souffrance, mais aussi d'expression de soi. Et c'est une reconnexion totale à son âme, à son corps, à tout ça. Et je sais que quand on fait des cours d'afro, enfin, Cyrène, elle nous fait ses petits cours d'histoire aussi. C'est très cool de savoir d'où viennent chaque danse, en fait.
Ouais. Et ça fait une super transition avec la question d'après que je voulais te poser. on a fait notre petite recherche et on a cru comprendre que le thème de la liberté était important pour toi dans ton travail d'artiste, d'artiviste. Et comment tu relis tout ça avec ces espaces de créativité, d'expression de soi, que ce soit la danse ou autre art?
Bah, en fait, de base, avant de penser à la liberté des peuples, et même si c'est la base et c'est tout ce qu'on veut, Free Palestine, mais du coup, pour moi, c'était déjà l'expression de moi-même, d'être libre, d'être qui je suis. Je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à l'être dans la société dans laquelle on vit, parce qu'il y a une grosse islamophobie, arabophobie dans ce super pays. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à être moi-même et à être libre d'être moi-même. Et du coup, c'est vraiment passé par l'art, en fait, cette liberté d'expression, en fait. Et j'ai fait de la danse plus jeune, j'ai arrêté et j'ai repris récemment. Et je crois que ça m'aide énormément aussi à faire ce cheminement. Mais ouais, la liberté, c'est la base de tout dans tout ce que je fais. L'envie d'être libre, d'être qui je suis, d'être libre de faire de l'art, même si tu l'aimes pas. Bah moi, j'aime. En fait, c'est ma liberté d'expression, c'est ma liberté de penser, de bouger, le fait d'avoir repris la danse aussi. Et du coup, c'est marrant parce qu'on est complètement raccord, en fait.
Vas-y. Bah, en fait, moi, je tiens juste à dire que le propre de la récré, déjà, c'est l'union de nous deux, comme je disais au début. Et Yasmina m'a beaucoup aidée sur la liberté, justement, et la liberté d'expression, la liberté d'être soi. Parce que souvent, quand j'ai grandi entourée de personnes qui n'avaient pas forcément les mêmes caractéristiques physiques que moi, et du coup, qui n'étaient pas concernées par le racisme ou concernées par des discriminations telles qu'elles soient. Et le fait d'avoir une personne qui vit les mêmes choses que soi, ça libère un peu la parole. Et c'est ça qui permet, en fait, de créer ces espaces où on peut s'identifier à d'autres personnes qui traversent les mêmes difficultés que nous, quoi.
Ouais.
Donc voilà, je trouve ça hyper important.
Du coup, la question d'après, elle concernait la mixité choisie ou la non-mixité des espaces dans lesquels on danse, dans lesquels on crée, dans lesquels on expose. Et du coup, voilà, nos questions, c'était sur qu'est-ce que ça change sur ces enjeux de liberté, d'identité, d'être dans un espace dans lequel on choisit avec qui on partage notre temps.
Bah, c'est de pouvoir s'identifier déjà. Enfin, pour moi, je sais que c'est vraiment un gros combat de pouvoir m'identifier. Et je pense que nous, en proposant des espaces comme ça, on pousse encore plus les gens à venir et à s'identifier, à être libre d'être eux-mêmes et à ne pas avoir l'impression de ne pas être au bon endroit, de ne pas trouver ces gens. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a voulu créer la récré, c'est parce qu'on voulait trouver notre famille, en fait. Et on a beaucoup parlé d'événements qu'il pouvait y avoir à Nantes auxquels on n'arrivait pas trop à s'identifier, à avoir envie d'aller. Et on a eu envie de créer ces espaces-là. Je ne sais pas si tu as envie de répondre.
Moi je pense aussi que c'est des espaces où on n'a pas peur d'être soi et d'être too much.
Exactement,
parce que souvent, il y a des événements où on a l'impression d'en faire trop, c'est gênant. Alors que dans les événements qu'on crée, on a un mégaphone et si on a envie de crier dedans, on crie dedans.
Déjà, rien que nous deux, quand nos événements, tu vois un peu l'énergie. Enfin, on est vraiment.
Nous, et du coup, je pense que c'est important de créer ces espaces-là pour que chacun puisse s'identifier déjà si les organisatrices elles sont folles comme nous et que tu peux être too much comme tu veux, bah je pense que c'est déjà un acte politique dans le sens où tu as envie déjà d'être toi aussi parce que les personnes qui l'organisent sont encouragent ce comportement là et je pense que c'est méga important dans dans l'organisation.
Est-ce que vous pouvez préciser pour nos éditeurices quelle mixité vous mettez en place dans vos événements ? Ou laquelle vous pensez quand vous organisez ?
Bah, nous, déjà, on essaye, en tout cas, de mettre en avant le plus possible des créatrices racisées. Même si, honnêtement, je fais un appel aussi, si vous êtes créatrice racisée, envoyez un message à la récré. Enfin, on ratisse un peu la ville, parce que c'est ce qu'on a envie le plus de mettre en avant, parce que c'est ce qu'on a en commun aussi, toutes les deux. Et après, ensuite, on met en avant aussi les femmes.
Oui, beaucoup. Mais en fait, moi, je tiens quand même à faire un petit point général.
Vas-y, go.
C'est qu'on a commencé, et c'est hyper intéressant, je pense, d'en parler, parce qu'on a commencé dans cette voie de vouloir mettre en avant des personnes racisées. Mm-hmm. Et au début, on n'a pas réussi, en fait. Et on s'est retrouvés confrontés à ça, dans le sens où je pense, non seulement on s'est un peu censurés, nous,
mais on s'est censuré,
ouais, complètement. On s'est censuré et en plus de ça, on savait pas par quel bord commencer. Là, le prochain événement qui a lieu, je fais un peu dessus, le 9 février.
Le 9 février, au Labo
justement, Diva. Est beaucoup plus aligné à ce qu'on a envie de faire et justement, on laisse l'espace à réellement des personnes qui sont racisées et qui ont un message à passer. Et par exemple, Siren, c'était en mixité. En non-mixité TDS, sur l'événement Siren, par exemple. Mm-hmm. Et pour l'instant, c'est juste ça.
Ouais.
Et Voix Libre, tu peux en parler, Yas.
Oui, on va apporter plusieurs. Enfin, on va commencer à proposer plusieurs formats à la récré parce que voilà, comme on a dit, on a commencé par les marchés de créaturistes. On va faire des soirées, on fait des cours de danse. Et là, on va apporter un aspect plus conférence, talk. Et du coup, ça sera autour de récits de personnes principalement racisées. Enfin, c'est ce qu'on a envie de mettre en avant, des personnes qui ont des récits qui sont souvent tus ou pas bien racontés ou pas racontés par ces personnes-là. Et du coup, redonner la parole à ces personnes pour raconter leurs récits, qu'on puisse s'identifier, qu'on puisse écouter même si on n'est pas concerné. Je trouve que c'est hyper intéressant d'entendre quelqu'un parler, une femme parler de sa vie de femme, une personne racisée parler de sa vie de personne racisée, plutôt que d'entendre d'autres personnes déformer ses récits, en faire autre chose qui n'est pas du tout... Et surtout, la première édition, ça sera avec une amie journaliste à moi qui s'appelle Rahma Hajjaj et qui a écrit un livre qui s'appelle « Les transgressives ». Et du coup, c'est sur les récits de femmes racisées, double culture, du coup, qui mentent beaucoup à leur famille par rapport à leur double vie. Il y a beaucoup la question de la santé mentale dans tout ça, est-ce que ça représente. Et du coup, c'est tout son récit à elle. Et autour de ce livre, elle a rassemblé une grosse communauté de transgressives, justement. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés à Nantes avec d'autres transgressives. Et du coup, le premier épisode, ce sera... son histoire et son livre qui seront mis en avant. Et du coup, c'est pas de la non-mixité, mais en tout cas, je pense que ça va permettre à beaucoup de personnes qui pourront s'identifier de venir à cet événement-là, de se sentir entendues, comprises, représentées. Donc voilà.
Et on n'a pas forcément envie d'oublier les alliés.
Aussi, évidemment. Attention, la récré, c'est pas du tout... on n'est pas fermé à rien du tout. Quoi.
Enfin, mais justement, ce que tu expliquais, c'est bien. C'est qu'on laisse la parole aux personnes concernées, mais on invite les alliés à soutenir justement les causes et les événements qu'on défend. Mmh.
Comment est-ce qu'on peut, en tant qu'allié, du coup, venir défendre et soutenir vos événements ?
Écouter, laisser l'espace et soutenir les personnes. C'est aussi, par exemple, réagir quand il y a une situation anormale qui se passe. Des fois, les personnes concernées, elles n'ont pas l'énergie de se battre contre les personnes qui
agressent ou qui peuvent dire des choses...
Les personnes concernées, elles ont des fois pas l'énergie en fait, de se défendre. Et du coup, c'est toujours important d'avoir des alliés qui vont faire rempart et qui vont les soutenir dans des moments difficiles où on ne trouve pas la force de...
Oui, parce que c'est bien de fréquenter ces milieux, c'est bien d'être là et tout, mais il y a des actes concrets... aussi derrière, comme c'est important de le savoir et d'agir, quoi.
Comme de connaître une culture, de l'apprécier, mais aussi de prendre les combats qui vont avec.
Ouais, exactement. Ouais, la réappropriation culturelle.
Merci pour vos réponses. Et on connaît aussi d'autres collectifs qui existent et qui organisent des événements et des soirées en mixité choisie à Nantes. Il y a notamment la Pounani, qui est une soirée organisée pour et par les personnes queer, racisées, mais ouvertes à tous. Et on vous propose d'entendre ce que les personnes concernées ressentent lors de ces moments de mixité choisie.
J'adore cette soirée. Première soirée queer à Nantes, et sûrement pas la dernière. La meilleure de toutes.
Ça fait tellement du bien d'avoir un event où on est vraiment en communauté, vraiment juste entre nous.
Les gens, notre espace, notre musique et tout.
Ça fait du bien.
Ça fait du bien.
Je suis grave, tu joues à quoi? Depuis que tu commences ton set, on peut même pas s'asseoir. Là, on est là en mode de bouillon, bouillon et tout. Après, ça te wish.
En gagne de reine.
No shade, Nantes.
Je vais me poser, j'ai chaud.
Il fait tellement caliente, por Dios. Caliente.
Ça fait des dizaines de fois que j'écoute l'audio. Incroyable. Et à chaque fois, ça me fout les poils.
Ah, moi aussi, là, il m'a donné. Mais le fait de ne pas voir la vidéo, mais d'entendre l'audio,
c'est encore plus,
prenant encore.
Ouais. Du coup, en fait, la Pounani, la récré, vous avez cette volonté commune de mettre en valeur des identités, des personnes qui ont finalement peu d'espace dans ce monde qui est un vaste espace de non-mixité d'hommes cisgenres blancs et riches.
Carrément.
Donc vous nous avez parlé des marchés de créateries qui valorisent les artistes racisés. Tu viens de nous parler aussi des formats conférences sur les récits d'immigration. Et Cyriane, tu as rejoint récemment l'équipe qui organise les bringues. Donc les bringues, c'est des teufs en mixité meuf. Et il y a d'ailleurs une des soirées de la bringue qui était organisée à Paris pour Halloween qui a été attaquée par des masculinistes à coups de mortier. C'est un attentat, en fait, on ne l'a pas dit parce que c'était des personnes blanches qui en étaient à l'origine, mais c'est un attentat qui donne finalement raison sur les bien fondés de se retrouver en mixité choisie.
J'allais lire.
Et du coup, ma question, c'était pourquoi ça a été important de rejoindre l'équipe d'orga des bringues
parce que d'abord, j'y suis allée en tant que cliente. Et j'ai beaucoup aimé comment on a encore envie une fois de se lâcher. Et comment j'ai vu les meufs entre elles, se soutenir, s'encourager pour monter sur les tables, pour twerker, pour tout faire. Et de voir cette énergie qui n'est pas du tout une beuverie comme on a l'habitude de voir des fois dans certains endroits, parce qu'on se retrouve là vraiment pour écouter du son, pour transpirer la liberté d'être soi. Et je trouve que c'est méga important parce que, tout simplement... je vais raconter une petite anecdote de la dernière. C'est qu'on on encourage vraiment les meufs à s'habiller comme elles veulent parce que c'est important pour nous de créer cet espace-là et de s'exprimer aussi à travers ces tenues. Et du coup, il y a beaucoup de tenues courtes, comme on sait que ça casse les codes et que ça dérange à l'extérieur, on le fait entre nous. Et faut voir comment c'est vraiment une bulle parce qu'à la fin de cette soirée, il y a plein de meufs qui reprennent leur sac et qui remettent le jogo en mode on retourne dans le monde réel et il va falloir affronter les chacals. Quoi. Donc concrètement, je pense que c'était important pour moi parce que de toute façon, tous les matins je me lève et j'ai envie de combattre toutes ces choses. Et c'était aligné avec mes valeurs de donner de l'espace encore une fois aux personnes qui sont toujours discriminées, toujours mises à l'écart. Voilà.
Quand on a préparé l'émission ensemble, tu as dit vouloir changer les termes de mixité, des bringues, et de vouloir ouvrir à plus de diversité en posant la mixité femme. Et est-ce que tu as envie d'en dire plus?
Ce que j'ai envie d'en dire, c'est que c'était important de le préciser tout simplement pour que toutes les personnes qui s'identifient au spectre femme se sentent invitées dans ces espaces-là et que ce n'est pas juste les meufs cisgenres. Qui sont les bienvenus, en fait. Et ça, c'est ce que j'ai ressenti dans la dernière bringue qu'on a organisée. Ouais, et le fait de l'avoir précisé, vous êtes venus. Le fait de l'avoir précisé, je pense que ça a permis à certaines personnes du spectre femme de se dire, ah bah ok, c'est clair, on peut y aller, c'est cool. Et c'est juste pour ça que c'était important pour moi de leur préciser et d'insister là-dessus.
Et je sais pas vous, mais moi, à parler depuis tout ce temps de teuf et de danse sur prune, j'arrive plus à tenir sur ma chaise. Donc, que diriez-vous d'une pause musicale pour se lâcher un peu ? On a pile le titre qu'il faut, qui nous a été soufflé par Yasmina, Araka de Mokhtar. On est de retour sur Prune, où on explose la morosité ambiante et les idées fachos en parlant des luttes concrètes, solidaires et joyeuses de nos invités. Céleste, depuis le début de l'émission, on parle de la fête et de la danse comme des outils politiques pour nourrir la lutte. On a aussi parlé de mixité choisie pour préserver des espaces de liberté, et c'est toutes ces questions que l'on va continuer de creuser avec nos invités de la récré. À toi.
Et oui, restez avec nous. Alors, j'ai lu dans Boom Boom Politique du Dance Floor que le carnaval, c'était à la base pensé par l'ordre établi comme une soupape sociale. En gros, les règles sociales sont oubliées, on peut être qui on veut derrière nos masques, mais seulement le temps du carnaval, qui d'ailleurs finit en chaos, comme pour montrer l'intérêt des règles sociales pour conserver l'ordre le reste du temps. Et dans le livre, le parallèle est fait avec la fête. La vie adulte sous un régime capitaliste, c'est vraiment pas fun. On est pris dans 1000 axes de discrimination, on assiste à des catastrophes sociales, éthiques, morales, politiques, écologiques, chaque jour sur nos téléphones. Faire la fête permet de relâcher la pression, de s'évader. Mais il y a quand même un risque d'avoir un syndrome de Cendrillon. Les espaces de liberté, de dépassement des frontières du genre, de partage, tout ça, parfois, ça ne survit pas au jour. Et finalement, ça ne change rien à nos vies individuelles ou collectives hors de ces espaces-là. Et du coup, ma question, c'est est-ce que vous, à l'inverse, vous avez l'impression que participer à des soirées qui portent des enjeux politiques, ou même en organiser, est-ce que ça peut être une porte d'entrée vers d'autres actions politiques, des prises de conscience politiques de jour, entre guillemets? Une fois ces espaces de fête terminés, est-ce que vous avez l'impression de pouvoir investir ces enjeux politiques dans d'autres éléments de votre vie?
Bah oui, complètement. Mais moi, je le passerais plus à travers la danse personnellement, parce que c'est ça qui m'a permis de me dire, bah, malgré les critiques que je reçois, bon, j'ai pas eu que des critiques, j'ai eu des soutiens, hein, ouais, grave, la vie coûte. Et malgré tout ça, bah, j'ai quand même... On est tellement alignés en fait, avec qui on est à l'instant T qu'on se dit, en sortant de ce cours de danse ou de cette activité ou de cette soirée, bah, je vais continuer à être comme ça parce que ça me fait tellement du bien d'avoir trouvé qui je suis que je vais continuer dans cette lignée-là. Et c'est ça qui va t'apporter en fait, les bonnes rencontres, qui va t'apporter les bonnes opportunités et de continuer à être aligné avec toi. Donc pour moi, oui, complètement, que les espaces de soirée qu'on crée nous emmènent vers... l'acceptation de qui on est vraiment, même la journée, même toutes les heures et toutes les minutes.
Et à travers aussi les rencontres qu'on fait lors de ces événements, et des rencontres entre personnes, entre assos et tout. Et parfois, on est allé manifester ensemble. Donc, il y a aussi tout ça qui se fait après les soirées, et d'aller aux soirées des uns et des autres, et de créer une plus grosse famille, et on milite ensemble, et on avance ensemble. Enfin, je trouve que ça fait que ça perdure quand même après... le moment de la fête, quoi. Mais ça serait bien que ce soit encore plus important que ça,
ouais.
Quoi.
Ouais, mais t'as raison, parce que le collectif te conforte dans qui tu es.
Ouais.
Le fait de voir que autrui a aussi les mêmes systèmes de pensée que toi, et aussi ces barrières-là, bah, ensemble, viens, on les brise, et viens, on est comme ça, même la journée, même tout le temps, au matin, le café, tout.
Bah ouais, moi je trouve aussi, depuis qu'on a la récré, on a rencontré des personnes incroyables, et on a lié des liens forts et
oui,
on a réussi à ce qu'il y ait d'autres actions au-delà de juste faire la fête, en vrai. Et on s'éduque beaucoup les uns les autres et il y a tout ce truc-là.
Même autour d'un verre.
Ouais, mais carrément.
Avec Jimmy.
Bah,
avec
c'est ça, ouais. Et du coup, ça fait qu'après, nous, on insuffle ce qu'on a appris avec telle ou telle personne dans nos actions aussi, dans nos valeurs. Enfin, je trouve qu'on a beaucoup à y gagner de faire la fête ensemble, en fait. Pour la suite, en vrai.
Faisons la fête
tous les jours. On y va, là.
Et Yasmina, tu as utilisé le terme militer. Est-ce que vous vous pensez comme militante?
Bah oui, ouais.
Bah ouais.
Bah oui. Bah ouais.
Quoi d'autre, en fait?
Mais il y a même un moment donné dans notre vie, là,
ouais.
Où on vivait un peu que pour ça.
Ouais.
Et on a mis de côté un peu on vivait que pour ça, dans le sens où on allait beaucoup en manifestation, qui est vraiment la façon la plus habituelle de protester et de s'exprimer aussi quand on n'est pas d'accord avec des idées ou avec des génocides. Free Palestine, Free Congo, Free... on avait oublié la fête et on n'a pas su trouver un équilibre et ça nous a aussi rongé. Donc je pense que c'est très bien d'avoir cet équilibre entre je vais manifester, je m'exprime et je crie avec tout le monde et c'est méga important ma présence, mais c'est aussi important d'aller célébrer qui on est et crier à travers des valeurs communes qu'on a avec les gens qui sont dans cette même essence, dans ce même espace en fait.
Complètement.
Et c'est le moment de la question toutex. On a réalisé qu'on avait une tradition en fin d'émission et c'est le moment. C'est la question qui donne envie aux personnes qui nous écoutent de rejoindre le feu de joie de l'antifascisme. Qu'est-ce que vos actions vous apportent à l'une et l'autre au quotidien?
Déjà, premièrement, d'être aligné avec soi et de pouvoir se lever le matin en se disant tout ce que je fais là, de toute façon, c'est qui je suis et ça va m'emmener au fur et à mesure vers qui j'ai vraiment envie d'être petit à petit. Déjà, je pense que c'est déjà beaucoup.
Attends, je réfléchis parce que ça m'apporte quand même pas mal de choses.
Bah, de rencontrer les bonnes personnes. Parce que en étant aligné avec ses propres valeurs, je dis beaucoup aligné. Hein.
Bah, c'est ça, bah, tu es
aligné. Avec ses propres valeurs, et bah, on rencontre les bonnes personnes et ça nous apporte des connaissances. Et ça nous permet encore de
créer,
de créer du lien et de préciser ouais. aussi sa pensée, de savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut plus.
Ouais. Bah, moi, je sais que, enfin, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, mais je crois que j'ai pas rencontré autant de nouvelles personnes bah, alignées avec mes valeurs que cette dernière année où on a créé la récré. Enfin, depuis ouais. la récré, je trouve qu'on a vraiment réussi à se rapprocher de personnes. Qui nous apporte énormément dans nos vies, parce que des personnes avec qui on est devenus amis, on a même des créateuristes qui sont devenus amis ensemble, enfin ouais. on a vraiment réussi à faire un petit je sais pas je sais pas, et du coup bah ça nous apporte beaucoup dans nos vies quoi.
Ouais.
On vous remercie chaudement Yasmina, Cyriane, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir partagé avec nous vos expériences et vos vécus.
Merci.
Avec vous, on a bien creusé les nuances qui existent entre non-mixité, mixité choisie et les multiples spectres que ces questions recoupent. Je crois qu'il y en a un ou deux à qui un peu de nuance et d'ouverture d'esprit ne ferait pas de mal avant de nous traiter de dangereux wokistes, communautaristes, fascistes, dès qu'on organise un événement en non-mixité.
Les gens qui se prétendent progressistes et qui, se prétendant progressistes, distinguent les gens en fonction de la couleur de leur peau, nous mènent vers des choses qui ressemblent au fascisme.
Vous aurez peut-être reconnu Jean-Michel Blanquer il y a 3 ans au sujet de réunions non mixtes organisées par l'UNEF. Lilia s'est penchée pour nous sur cette question du communautaire et en son absence, c'est Enora qui nous présente sa chronique.
Je vais porter la voix de Lilia aujourd'hui en son absence. Et donc je voudrais vous parler d'un concept qui sous-tend cette émission et les organisations en non mixité en général. C'est le communautaire. Alors là, vous avez peut-être les poils des bras qui se sont dressés et les sourcils qui se sont levés si le terme ne vous dit rien. C'est une notion encore trop peu reconnue en France, terre de l'universalisme, du « je vois pas les couleurs » et autres « vous avez rien compris ». On a mal dû vous expliquer, quand on parle de communautaire, souvent on entend communautarisme, renfermement. Si tu revendiques un développement communautaire, on va t'accuser de séparatisme, d'être en opposition aux valeurs de la République. Ces mêmes valeurs qui sont utilisées à tort et à travers par la droite et les sociotraîtres depuis 10 ans pour exclure plutôt qu'inclure. Non, Brigitte, les valeurs républicaines, c'est pas brailler la Marseillaise quand un prof rentre dans la classe. Il y a 6 mois, Paloma, l'asso communautaire dans laquelle travaille Lilia, a sorti un super fanzine sur la démarche communautaire. C'est de ce fanzine qu'elle s'est inspirée pour écrire cette chronique. Le communautaire, donc, ça rejoint ce qu'on essaye de faire avec cette émission. C'est la croyance profonde que c'est le lien entre les gens qui est à la base des transformations sociales que l'on veut voir advenir. C'est aussi la mise en avant de l'importance de se rassembler en communauté de personnes concernées pour s'émanciper des rapports de domination. Oui, donc, on appartient parfois à plusieurs communautés, selon les oppressions qu'on subit. On parle de communauté queer, de communauté noire, arabe, handi, de communauté de l'anneau. Ah non, attendez, j'ai mélangé mes fiches. Mais c'est quoi une communauté dans le sens où on l'entend quand on parle de non-mixité ou de développement communautaire ? C'est celle qui nous vient de la sociologie et catégorise des groupes qui ont du commun, que ce soit des codes, des habitudes, mais aussi des sexualités, un genre, une profession, etc. D'ailleurs, pourquoi a-t-on besoin de ces communautés encore plus qu'avant ? Au-delà de la nécessité de pouvoir échanger avec des personnes ayant le même vécu, peut-être parce que l'État et les institutions censées nous protéger faillissent à leur mission. L'État de droit est en crise, le régime solidaire de la Sécu aussi, tout comme les services publics, la justice, l'éducation ou encore la culture. On en revient à un individualisme à l'américaine qui ne profite à personne d'autre qu'aux riches blancs. Et en règle générale, ces communautés minoritaires permettent de faire front face aux maltraitances de la culture dominante qui arrive avec ses chaussures bateaux pleines de préjugés et les balance dans les médias, dans la vie publique, dans le cadre législatif. En s'unissant en groupe, non seulement on se protège, mais on assure aussi un contre-pouvoir politique. La communauté oppressée, déjà politique par son existence, l'est d'autant plus qu'elle est un levier essentiel à l'émancipation de ses membres. Le comédien Alok Venom le dit superbement à la fin de son spectacle en parlant de la visibilité trans. Je cite « La beauté et la poésie du pronom « yel », c'est qu'il signifie que je suis à la fois singulier et pluriel, et chaque fois que j'ai peur ou que je sens que plus rien n'est possible, je vois une autre personne trans et je me rappelle que je fais partie de quelque chose de plus grand que moi. Et si la visibilité trans n'était pas là pour éduquer les personnes cis à cesser de nous faire payer leur haine d'elles-mêmes, et si la visibilité trans était de nous maintenir en vie les uns et les unes les autres ?» Pour Lilia, ça résume parfaitement ce qu'est le communautaire, en quoi il est juste, légitime et nécessaire, et à quel point il faut se battre pour continuer de faire exister ces espaces, ces liens et ces groupes, parce que c'est comme ça qu'on s'en sortira.
Merci à Lilia et à toi, Enora, pour ces précisions bien nécessaires. On touche à la fin de cette émission. Céleste, est-ce que tu aurais envie de nous dire un dernier mot ?
Bien sûr. Alors, j'ai adoré préparer et enregistrer cette émission. D'une part, parce que ça rejoint des heures de discussion que je peux avoir avec des potes en terrasse. D'autre part, parce que tous ces questionnements sur la fête comme objet politique et sur les mixités choisies plutôt que subies, c'est vraiment, vraiment un truc d'islamo-gaucho-wokiste. Ce que Lilia a écrit et ce que Enora a lu, c'est une réponse à Darmanin et sa loi antiséparatisme de 2021 qui menace de couper les subventions aux assos qui font des actions en non-mixité. C'est une réponse à tous les discours islamophobes qui crient au communautarisme radical séparatiste quand les enfants fêtent l'Aïd en famille plutôt que d'aller à l'école, alors que Noël c'est férié, la laïcité, tout ça, tout ça. C'est une réponse à tous ces mecs cis qui chouinent quand on veut être tranquille dans un bar sans avoir à surveiller nos verres ou paniquer dès qu'un une pote n'est plus dans notre champ de vision. Ce que Cyriane et Yasmina nous ont partagé, ça montre toute la puissance de nos communautés, toute la beauté d'être soi et d'être ensemble. À deux doigts de partir en discours mi-France, cette histoire. Attendez, je me recentre. Ce sur quoi je voulais insister pour conclure l'émission, c'est la liberté et l'expérimentation qui sous-tendent tous ces questionnements. Les boomers du gouvernement et du Parlement font des crises de nerfs quand on leur parle d'écriture inclusive, de mixité choisie, de lutte contre les discriminations. Ils les érigent en danger pour la République, en lavage de cerveau pour les enfants, en guerre contre ce qui fait la France, dictature dont on ne peut plus rien dire, le fascisme du YEL. Alors que s'ils savaient, l'écriture inclusive n'est rien d'autre que questionner notre langage oppressif et discriminant. La définition de nos mixités naît d'un besoin de se protéger et d'une envie de n'exclure personne. La lutte contre les discriminations prend source dans une féroce quête de liberté et d'égalité. Le communautaire, c'est simplement prendre soin de nous et de nos proches. Rien n'est figé, on n'impose rien, on questionne. La lutte contre le fascisme, c'est détruire tous les carcans sociaux qui nous enferment. C'est questionner toutes les injonctions qu'on nous a présentées comme allant de soi. Ce n'est ni en imposer de nouvelles, ni créer de nouvelles catégories excluantes. Je vais prendre une minute pour vous raconter ma vie. Et oui, quel est l'intérêt de faire de la radio si c'est pas pour raconter ma life dans un micro ? Je rencontre une fille un peu plus jeune que moi pendant un volontariat. Elle est surprise quand je lui raconte que, loin d'imposer quoi que ce soit, le combat pour une écriture inclusive, c'est se questionner. Expérimenter mille façons de ne pas exclure quand on écrit ou quand on parle. Il n'y a pas de règlement de l'écriture inclusive, il n'y a pas de police du point médian. On fait comme on veut, on teste, on invente. Et après, elle me demande, c'est quoi la position des féministes sur le maquillage ? Vous êtes pour ou contre ? Et j'ai totalement pris de court, j'étais là, comment ça, pour ou contre le maquillage ? Le combat antisexiste, c'est justement de pouvoir choisir si on veut porter ou pas du maquillage. C'est lutter contre l'injonction d'en porter si t'as été assignée femme à la naissance et l'interdiction de le faire si t'as été rangée dans l'autre case. C'est l'émancipation de règles arbitraires, pas l'invention de nouvelles. La mixité choisie, c'est pareil. Pas de nouvelles exclusions, pas de police, jamais pas de police, et pas de règlement. Juste une envie de bien faire. On est quand même loin de la terreur féministe qui faisait la une de Valeurs Actuelles. Du coup, je vous propose qu'on conclue là-dessus. Les fachos, c'est celles qui prêvent de liberté une partie de la population, pas celles qui travaillent à ce que tout le monde puisse s'autodéterminer en liberté.
Ça, c'est de la conclusion. Merci Céleste pour ces mots qui remettent bien le bar au milieu du village. Merci encore à nos invités de la récré et à toute l'équipe de Siamotoutex pour cette émission. Et si, comme moi, elle vous a donné envie de creuser les points abordés, vous pourrez trouver des ressources sur la page de podcast sur prune.net. Merci à vous, chez vous, d'avoir passé cette heure avec nous. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain sur Prune. Bon week-end.
Salut.
Salut. Salut.